demandé de chercher l'étymologie de Oulofouès. Se traduit par tout à fait dans son état naturel. Brut. Natif. Vous voyez, c'est l'être sauvage. Au fond, c'est l'être. C'est l'être sauvage. Vous entendez? Rien du tout. C'est l'être sauvage, Oulofouès, c'est-à-dire, ça vient de Fuein, Fusis, ce qui croit, et Olos tout entier. Donc ce qui est tout entier, qui croit. Enfin, je reprends, je crois qu'on a été là. Enfin, ça va pas. L'orage, quand il tombe dessus, ça détraque tout. Enfin, il est absurde de ne pas croire quelque chose advenir en vue de quelque chose. Vous entendez? Rien du tout. Faire! Ça va, bon, autrement on peut se rapprocher. Enfin, il est absurde de ne pas croire quelque chose advenir en vue de fin. Si, et chaque fois que l'on ne croit pas la réalité motrice en train de délibérer, et en vérité, c'est aussi l'art qui ne délibère pas. Et de fait, si l'art de construire les navires était dans le bois, il les ferait de manière semblable à la nature. Et ça, le mythe aristotélique. Si l'art de construire les navires était dans le bois, faut inventer ça, hein, il les ferait de manière semblable à la nature. De sorte que, si existe dans l'art, la fin en vue de laquelle il meut, il existe aussi dans la nature. La chose est au plus haut point manifeste lorsque quelqu'un se guérit lui-même, car c'est à lui que ressemble la nature. Que donc la nature est cause, et qu'elle l'est à la façon de la fin en vue de laquelle quelque chose advint, voilà ce qui est clair. Vous avez tous compris? C'est évident. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, je crois, au point de vue méthode, hein, au point de vue philosophique. C'est de voir perpétuellement la nature qui éclaire l'art et l'art qui éclaire la nature. Cette sorte d'analogie perpétuelle entre les deux. Pour nous, c'est très très intéressant. Vous voyez, quand Aristote dit, et je le redisais tout à l'heure, quand Aristote dit la philosophie est plus proche de l'art, ou l'art est plus proche de la philosophie que l'histoire. Très important de comprendre ça, point de vue méthodologique. Aujourd'hui, l'histoire veut devenir une philosophie, alors que l'histoire n'est pas une philosophie. Et elle ne peut pas être une philosophie, elle ne saisit aucun principe. L'historien, comme historien, ne saisit aucun principe. Tandis que l'art saisit un principe. Et ce qui est très important pour nous, c'est de voir que la philosophie de la nature ne peut être philosophique qu'en se servant constamment de l'art. La philosophie de l'art est antérieure à la philosophie de la matière, à la philosophie de la nature. Je ne peux pas comprendre la philosophie de la nature sans faire appel constamment à l'art, à la philosophie de l'art. Je ne peux pas. Et comme c'est important pour nous, pour essayer de comprendre le statut particulier de la philosophie de la nature, et par le fait même le statut particulier de la philosophie du vivant. Et nous sommes encore beaucoup trop imprégnés de scolastique. Dans la scolastique, la philosophie de la nature est considérée comme première, génétiquement première, par rapport à la philosophie de l'art. Alors que c'est l'inverse. La philosophie de l'art est première. La philosophie de l'art est première, génétiquement parlant. Et donc, elle doit nous aider à saisir la philosophie de la nature. Alors, qu'en scolastique, décadente, en scolastique, elle a très vite été décadente, hein, depuis Occam, la philosophie de la nature est considérée comme première. Et on applique les principes de la philosophie de la nature à l'art. Ce qui est l'inverse. Quand on dit l'art imite la nature, c'est pas du tout l'art qui suit la nature. Pas du tout. C'est que pour comprendre ce qu'est l'inspiration et l'eidos, il faut tout le temps l'expérience. Là, vous voyez, il y a une expérience. Si j'essaie de saisir l'ordre génétique, il y a une expérience de la réalité physique première. D'où, à partir de là, l'eidos apparaît. L'eidos est un principe. C'est le principe propre de l'art. Et cet eidos nous fait comprendre la finalité. Et cet eidos est première, au point de vue philosophique, par rapport à la philosophie de la nature. Donc, il y a l'expérience de la réalité physique qui est première, mais pas la philosophie de la nature. C'est tout à fait autre chose. On a confondu les deux. Alors ici, c'est très net. C'est que je ne peux pas comprendre la finalité de la nature sans faire appel à la philosophie de l'art. Autrement dit, la causalité finale est beaucoup plus explicite pour nous, quanos, en philosophie de l'art, grâce à l'eidos, que dans la philosophie de la nature. Oui.
Comment justifier qu'on se serve de la philosophie de l'art ?
Parce que la connaissance pratique est plus proche de nous que la connaissance spéculative. La philosophie pratique est plus proche de notre manière de connaître que la philosophie spéculative. Je crois ça très important. En philosophie pratique, le propre de la philosophie pratique, donc, et la philosophie pratique me fait comprendre ce qu'est la philosophie de l'art. La philosophie de l'art est première génétiquement. C'est la première philosophie. Mon premier regard philosophique, c'est la philosophie de l'art. Génétiquement est première. L'œuvre d'art est plus proche de moi que la nature. Le but de l'art, c'est de manifester la nature, d'expliciter des tas de choses qui sont enfouies dans la philosophie de la nature. Donc j'ai besoin de la philosophie de l'art pour connaître la philosophie de la nature, qui est une philosophie spéculative. Elle est seconde. Alors qu'on a inversé l'ordre scolastique. Pourquoi ? Parce qu'on a laïcisé une connaissance théologique. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui a fait, au fond, qu'il y a des tas de choses qu'on ne comprend plus. Oui ?
Et est-ce qu'on peut dire aussi que dans une connaissance théologique, il n'y a pas de distinction aussi nette entre pratique et de spéculatif ?
Oui, parce que la foi est éminemment pratique.
Donc quand on laïcise une pensée théologique, il n'y a plus la...
Oui. On ne comprend plus la distinction entre l'ordre spéculatif et l'ordre pratique. Non, c'est ça, l'erreur vient de là. Et notre confusion dans laquelle on est vient de là. C'est toujours Occam, quoi. C'est Occam qui a été celui qui a tout brouillé. Parce qu'il a mis la logique. Et la grande tentation, c'est toujours de faire de la logique une science et une philosophie. Alors que la logique est un art. L'art des arts. Pas plus. Donc ici, c'est très net. Hein. Et cette dernière manière de découvrir la finalité à partir de l'art et de justifier la finalité dans la nature à partir de l'art. Alors retenez cette chose-là. La chose est au plus haut point manifeste lorsque quelqu'un se guérit lui-même. Car c'est à lui que ressemble la nature. Se guérir soi-même, indépendamment de l'art, un rhume qui se guérit sans l'art, c'est très humiliant pour le médecin, c'est magnifique pour la connaissance de la nature. Il a toujours pris cet exemple avec le docteur Durand, n'est-ce pas, psychanalyste freudien, qui était en Suisse. Et je lui demandais, est-ce qu'il peut guérir sans votre intervention ? Il dit oui. Je dis bon, alors je vous le prends. Alors il m'a répondu, j'aurais mieux aimé qu'il guérisse avec mon intervention. Moi j'ai répondu, j'aime mieux qu'il guérisse sans votre intervention. C'est un dialogue sublime, ça. Oui.
Vous pourriez préciser comment cette confusion théologique, le regard du théologien sur la nature.
Le regard du théologien, prenez, le théologien n'est pas un artiste, comme tout le monde sait. Le théologien spécule. Et chez le théologien, il y a une propension du spéculatif avant le pratique. Puisque le théologien regarde Dieu. Or Dieu, je ne le connais pas d'une connaissance pratique. Je le connais dans un regard contemplatif. Dieu ne peut être atteint que par la contemplation. Ça ne peut pas être analysé. Donc, il y a en théologie un primat du spéculatif, éminemment pratique. Mais le regard spéculatif est premier. Le théologien est un contemplatif. Le jour où la contemplation se ramène à la logique, il y a un primat de la logique. Et on considère que ce primat de la logique va commander tout le regard spéculatif, tout le regard pratique. Là, on fait des boulettes énormes. Le jour où on laïcise la théologie, on met donc un primat du spéculatif sur le pratique. Et on ne comprend plus l'ordre génétique de la connaissance humaine. Selon l'ordre génétique de la connaissance humaine, il y a un primat d'une connaissance pratique sur une connaissance spéculative. Et où est le primat de la connaissance? C'est dans l'art. On est tous des artistes qui s'ignorent, en premier lieu. Et je dois regarder en premier lieu la philosophie de l'art. Or, la scolastique ne l'a plus regardé du tout. Oui. L'art, aucun intérêt, parce que l'art ne me dit rien de Dieu, donc aucun intérêt. Et l'art dit beaucoup de choses sur l'homme par rapport à l'univers. Et c'est la connaissance de l'homme par rapport à l'univers qui est première. C'est l'invention de la roue qui a été la chose déterminante. Ça a été de se servir du feu qui a été la première connaissance humaine. L'homme s'est brûlé les doigts avant de se servir du feu. C'est la première expérience qu'il fait. Et ça reste. C'est brûler les doigts. Vous voyez là? Alors que si je laïcise la pensée théologique, je crois que la connaissance spéculative est première. Parce qu'elle est première en théologie. Je ne suis pas premièrement un métaphysicien, non pas du tout. Je suis premièrement un artiste. C'est l'erreur de Maritain quand il dit que l'enfant dans son berceau a des connaissances métaphysiques. Mais non. Il y a des connaissances artistiques, symboliques. L'enfant commence par être quelqu'un qui construit des mythes. Des mythes enfantins, mais des mythes. Il vit dans le symbolisme. Il faut entrer dans le jeu de l'enfant. Mais pas du tout spéculatif. Il n'a pas la connaissance de l'être, voyons. Même. Quand je prends l'art, je prends le travail. Un artiste est un artiste que s'il travaille. Un artiste qui ne travaille plus n'est plus un artiste. Quoi ? On est tous artistes, on s'ignore. Et tant qu'on n'a pas découvert qu'on était un artiste, on fait des boulettes. On est tous un artiste. On a tous commencé par une connaissance symbolique et on continue. Oui, mais un artiste, voyez bien ce que je veux dire, un artisan. Le jour où l'artiste n'est plus un artisan, il n'est plus un artiste. L'art naît du berceau de l'artisan. Et le jour où il n'est plus artisan, il n'est plus un artiste. C'est un... Oui. Un homme qui spécule, il n'est plus un artiste. Il travaille de la tête, du chapeau plus exactement. C'est-à-dire qu'il est un homme qui cérébralise. C'est tout l'art moderne cérébralise. Il oublie que un véritable artiste est toujours un artisan. C'est absolument nécessaire pour un artiste d'être un artiste.
Forcément, il y a une distinction.
à fait. Oui, mais attention, l'homme d'art connaît par les principes parce qu'il a de l'expérience. On est qui c'est acquis par l'étude et par l'expérience. Vous n'acquérez pas par l'étude l'expérience. L'étude ne vous donne pas l'expérience. Et on acquiert les principes par l'expérience, plus que par l'étude. Le début de la métaphysique montre bien ça. Et donc, c'est bien cette expérience pratique qui est le laboratoire dans lequel progressivement on acquiert les principes. Que l'homme d'art soit un homme de principe, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis que la philosophie de l'art est première. Mais quelle différence y a-t-il entre l'artiste et le philosophe? C'est que l'artiste vit du principe et que le philosophe réfléchit sur le principe. Et que le philosophe met en lumière que l'artiste est un homme de principe, alors que l'artiste le vit sans le savoir. Parce qu'il vit ses inspirations. Et ses inspirations naissent de son expérience. C'est le philosophe qui met ça en lumière. L'artiste le vit. Et l'artiste est très heureux d'entendre le philosophe qui le dit. Je vois actuellement, toujours la même chose, je vois actuellement, étant entré, je ne sais pas s'il va rester, mais étant entré dans la communauté, un architecte. 33 ans, je crois, quelque chose comme ça. Qui a du métier, puisqu'il a construit beaucoup de cinéma. Donc ça prépare la communauté Saint-Jean. Il a construit beaucoup, il était architecte de. Construisant les cinémas. Donc il a parcouru le monde entier pour construire des cinémas. Oui, déjà ça bosse pas mal. Construire des cinémas. Bon. Il m'a dit, je vais pas demander, mais ça m'intéresse. Il s'est plongé évidemment dans la philosophie de l'art. Et c'est par là qu'il doit. Il m'a dit, mais, ah, c'est intéressant, oui, parce que c'est la première fois où j'entends une réflexion sur l'architecture. J'étais architecte, j'ai jamais réfléchi sur ça. Disant ce que vous dites sur l'architecture, ça m'intéresse. Oui, un passage de l'artiste qui édifie, qui construit, et la réflexion philosophique sur l'art. La réflexion philosophique sur l'art montre que l'architecte, comme architecte, saisit des principes. Autrement, il ne serait pas architecte. Il serait un homme d'expérience. La distinction fait Aristote entre l'homme d'expérience et l'artiste. L'homme d'expérience n'a pas la saisie d'un principe. Sauf, mais cet homme d'expérience va le conduire ou à la prudence ou à l'artiste. Et il y a quelque chose de commun entre l'expérience artistique et l'expérience de l'homme de prudence. Mais déjà, dans l'expérience, il y a quelque chose de différent. Et ça, je peux dire après coup. Oui. Donc, l'homme d'expérience, le travail, se fait ou dans la lumière de l'artiste, ou dans la lumière du travail qui exécute. Il y a deux manières de travailler. On exécute ou on travaille en artiste. Celui qui travaille en artiste, il a la saisie d'un principe, mais il travaille toujours. Et celui qui exécute n'a pas la saisie du principe, il exécute. Oui. Ce sont des artistes en herbe. Non, je crois pas. Je crois pas ça. Faisons attention, attention. Ici, ce qu'on cherche, qu'est-ce qui est premier par rapport à nous? On cherche notre génétique. Vous voyez, ce qui est premier pour nous, c'est l'art. C'est c'est pas la nature. Un gosse, il joue.
Et là, il devient
de la question. Eh oui. Ce que je cherche, c'est l'ordre génétique de ma connaissance. Qu'est-ce qui est premier pour moi? C'est ça que je cherche ici, pour comprendre ce que dit Aristote. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre génétique de ma connaissance? C'est, je dis, la connaissance artistique. Elle est plus proche de moi que ma philosophie de la nature. C'est seulement ça que je cherche. Génétiquement, nous sommes plus proches de l'art que de la connaissance spéculative de la nature. La connaissance spéculative de la nature est déjà quelque chose de très élaboré. La connaissance artistique, c'est pour ça que je dis, nous sommes tous des artistes qui nous ignorons. Tous. Il y a une expérience de l'art et de la connaissance artistique qui est plus proche, génétiquement. Oui.
On parle souvent du langage universel de l'art.
Oui.
Alors,
symbolique.
C'est du côté du symbole.
Tout à fait. La connaissance symbolique est première. Elle est antérieure à la connaissance spéculative. La philosophie de l'art est déjà une connaissance spéculative. Parce qu'elle est une connaissance spéculative, elle n'est pas première. Vous voyez, ce que j'essaie de montrer ici, c'est l'erreur de la scolastique. Qui a dit que la philosophie de la nature était première pour nous. Elle n'est pas première génétiquement. Qu'est-ce qui est premier génétiquement? C'est la connaissance artistique, qui est plus proche. C'est normal de récent. Je ne sais pas, j'ai fait regarder un gosse. Il y a une connaissance symbolique. Il construit son monde. Le gosse, bon, il met du temps avant d'admirer la nature. Il met du temps. Oui.
Parce que là, il y a une chose chez Jung.
Chez
Jung.
Oui.
C'est une grande connaissance symbolique. Alors, il y a quelque chose qui s'impose un peu à tout homme.
Et chez Aristote, c'est ça. Naturellement, l'enfant imite. Il ne dit pas naturellement, l'enfant contemple. Mais non. La contemplation n'est pas première, elle est première selon l'ordre de nature, mais pas selon génétique. La première connaissance, comme dit Aristote, selon génétique, c'est l'imitation. On imite. Et imiter, c'est l'œuvre artistique. En comprenant bien ce que c'est qu'imiter.
Parmi tous les animaux, l'homme est celui qui est plus capable de faire l'imitation.
Oui, tout à fait. L'homme imite. Oui. Non, non, ils n'imitent pas du tout. Les autres animaux vivent selon leur nature. Oui, oui, c'est ça qu'il veut dire. Mais on imite. C'est la première connaissance, c'est l'imitation. Oui.
Le risque, un petit peu, c'est qu'en parlant du langage universel de l'art, on risque d'oublier que la connaissance symbolique est très liée au singulier et au sensible, et de faire de l'art une science.
Oui.
Et c'est, vous voyez, c'est parce qu'on ressent ça chez beaucoup. On sent que l'art devient une espèce de science.
De méthodologie.
C'est ça. C'est fait que vous avez des principes qui sont universels.
Mais c'est ça la scolastique. Et on retombe tout le temps dans la scolastique. Il y a une scolastique terrible aujourd'hui. La scolastique de la science. Vous voyez, on applique. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a plus d'art. Alors, on doit reprendre contact avec la nature pour redécouvrir qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas fait, qui est la nature. Et il y a quelque chose que nous faisons, c'est la transformation de la nature. Vous voyez, toujours le premier selon l'ordre génétique, le premier selon l'ordre de nature. C'est tellement important ça, découvrir ça. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que la connaissance de la causalité finale nous est donnée en premier lieu par l'art et non pas par la nature. Tellement d'importance. La connaissance artistique, vous voyez, est pour nous. C'est important parce que comme Nous avons complètement oublié aujourd'hui la connaissance finale. Hein? On est dans le positivisme le plus complet. Comment redonner le sens de la causalité finale? C'est pas la nature, c'est l'art. Vous voyez, les anciens le savaient bien. C'est la gymnastique qui vous donne le sens de la finalité. Et si vous oubliez la gymnastique, vous oubliez ce que c'est que votre corps. Et vous oubliez la finalité. Un philosophe doit continuer de faire de la gymnastique. Et s'il ne fait pas de la gymnastique, le père Deau faisait tous les jours une demi-heure de marche pour maintenir la finalité du corps. Je trouve ça très beau. On doit aimer, dès qu'on le peut, reprendre contact avec le point de vue de la gymnastique, quoi. Que ce soit la marche, que ce soit le tennis, que ce soit n'importe quoi, que ce soit les haltères, que ce soit... Mais la gymnastique, on doit comprendre que notre corps a besoin de cela, le sens de la finalité. Et le jour où on ne l'a plus, on perd quelque chose, on perd le sens de la finalité, et on retombe dans un primat de la forme. Qui est effrayant, qui est anti-philosophique. Je crois que c'est très très important ça, de sentir que la connaissance, la finalité nous est donnée par le point de vue artistique, en premier lieu. Et c'est ce qu'Aristote montre. Parce que dans la nature, la finalité est toujours très cachée. Elle est très voilée. Elle est cachée, elle est voilée. Je ne la saisis pas directement. Une fois que j'ai saisi dans l'art, je peux la regarder dans la finalité de la nature. Autrement, vous voyez, je dis, oui, il y a des grandes feuilles, cet arbre-là, c'est pour cacher les fruits, comme dit Aristote. Mais c'est très dangereux de dire ça. Vous comprenez? Dans Aristote, c'est pas dangereux, parce qu'il y a l'art. Et s'il n'y a plus l'art, je tombe alors dans une spéculation complètement idiote. L'homme est un artiste, premièrement. Il émerge du monde naturel, du monde sauvage, par l'art. Autrement, il retombe dans le monde sauvage. Et le monde sauvage, c'est le primat de la cause matérielle. Et le monde artificiel, c'est le primat de la cause formelle. Et je reste dans le réalisme que si je mets le primat de la cause finale. Et je crois que beaucoup d'angoisses proviennent de cet enfouissement dans le monde matériel ou dans le monde formel. Il y a deux espèces d'angoisse. Et l'angoisse du monde formel et l'angoisse du monde matériel. C'est très curieux. Et l'angoisse est toujours la perte de la finalité. Si vous êtes plus finalisé, mais vous ne serez plus angoissé. Oui. Oui, tout à fait, les deux formes du panthéisme. Les deux formes du panthéisme viennent de là. C'est la perte de la finalité. Quand oui, le panthéisme, c'est une angoisse. C'est une angoisse intellectuelle, très, très, très. Mais c'est une angoisse, c'est terriblement angoissant, le panthéisme. Mais c'est un enlisement. On est angoissé quand on est enlisé. Et tout enlisement, c'est une perte de la finalité. Donc, dès qu'on sent qu'on perd la finalité et qu'on est angoissé, on doit reprendre le sens de l'art artisanal et la gymnastique. Celui qui est angoissé, qu'il fasse une demi-heure de gymnastique tous les jours, qu'on apprenne le judo. Moi, j'en suis persuadé. Persuadé que il y a quelque chose comme ça qu'on devrait rétablir. Parce qu'autrement, on est déjà angoissé. Alors, arrivé à un certain âge, c'est plus la peine. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir une bicyclette chez soi pour faire un pédalier tous les jours. Mais quelquefois, on se demande, vous voyez, on se demande s'il ne faudrait pas un petit peu une salle dans laquelle tous les frères un peu angoissés fassent une demi-heure de pédale tous les jours. J'aime mieux que ça se fasse dans la nature. Et je crois, Il arrive un moment où l'angoisse, le point de vue spéculatif, est complètement inhibé. Alors, si le point de vue spéculatif est complètement inhibé, si vous arrivez par vous-même, votre habitus spéculatif est suffisamment fort pour dépasser l'angoisse. Pas avoir 2 minutes d'angoisse, c'est potable, mais pas plus. 2 minutes d'angoisse tous les jours. Vous avez le droit à ça. Mais pas plus que 2 minutes. Et puis vous sortez tout de suite. Alors, vous sortez de l'angoisse par l'art. Et le premier art, c'est la gymnastique. Alors, si vous chantez juste, chantez votre petite romance tous les matins. Ça vous permet de sortir de l'angoisse. Hein. C'est très bon. Si vous n'êtes pas, si vous ne chantez pas juste, faites une marche d'une demi-heure tous les jours. Et si vous pouvez, labourez la terre tous les matins. Une demi-heure. Et en pensant qu'on laboure. Parce que si on ne pense pas qu'on laboure, ça ne sert à rien. Comme on pense qu'on marche, mettre son intelligence dans la marche. Pas si commode que ça de mettre son intelligence. La marche des animaux, hein. Le mouvement local. Le mouvement local vous fait redécouvrir la finalité. De façon immanente. Et la gymnastique, c'est un art immanent. La danse, de façon immanente. Déjà un peu plus évolué. Je ne vous demande pas de danser une demi-heure tous les jours devant l'arche. Et si vous pensiez ça, c'est éducatif. Dieu a éduqué son peuple par la danse. Et David. Quoi ? Le climat monastique, vous voyez, faisons attention. Qu'est-ce que c'est que le climat monastique ? Vous voyez, le climat monastique, c'est un climat d'harmonie parfaite entre l'âme et le corps. C'est ça le religieux. Bon, quand on est angoissé, il faut rattraper. Comment pouvons-nous rattraper ? Ça nous est montré. Il y a une éducation par le point de vue gymnastique. Oui, si je suis convaincu, c'est ça que j'insiste, si je suis convaincu que la finalité, nous la découvrons en premier lieu par le point de vue artistique. Il faut être convaincu de ça, en premier lieu. Et quand je prends artistique, je prends l'activité artistique. Hein. Je ne prends pas l'art dans le sens absolu. Un travail artistique, finalisé. Pas le travail du manœuvre. Le travail du manœuvre abruti. Tandis que le travail qui n'est pas un travail du manœuvre, qui est un travail artistique, qui est finalisé par une œuvre. Ce travail-là, la gymnastique, c'est un travail finalisé. Finalisé par la souplesse du corps qu'on maintient. Et qu'on veut maintenir cette souplesse du corps jusqu'au bout, le plus qu'on peut. Bon. Ce travail-là est finalisé et nous donne le sens de la finalité. Il nous fait récupérer la finalité. C'est la seule manière d'émerger. Comment vous abandonnez. Dès qu'on sent qu'on est un peu angoissé, qu'on a un tempérament un peu angoissé dans notre monde d'aujourd'hui, mais réagissons tant qu'on le peut. Et quand on voit quelqu'un qui ne peut le faire, on est à côté de lui pour le faire avec lui. Plutôt que de bavarder, faisons une marche d'une demi-heure ensemble. Faisons des exercices haltères ensemble. On ne perd pas son temps. Parce que le bavardage ne supprime pas l'angoisse, l'augmente. Ça l'alimente. Bavarder avec quelqu'un d'angoissé, c'est alimenter son angoisse. Bon, si on peut découvrir tout de suite, par un habitus spéculatif, tout de suite travailler, très bien. Vous voyez, il tient mal. Révisser les écrous. Si on ne peut pas, mais je crois qu'il y a que le travail. Parce que la découverte de la finalité, oui, je disais toujours que l'angoisse, c'est la perte de l'expérience, c'est sûr. Et peut-être qu'il faudrait mieux dire les deux, perte de l'expérience et perte de la finalité. Les deux se tiennent. Mais c'est la perte de la finalité. Quelqu'un qui est finalisé ne peut pas être angoissé. Impossible. Et c'est l'angoisse. Quelqu'un qui est vraiment finalisé ne peut pas être angoissé. Et la seule manière d'avoir cette auto-éducation sur soi-même pour essayer d'éviter l'angoisse, c'est de redécouvrir là où je peux redécouvrir ma finalité. C'est quand même très important pour notre monde d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qu'on doit apporter. On doit faire comprendre ça pour nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui devons découvrir ça. Et chacun à sa manière. La gymnastique d'un vieillard n'est pas la même que la gymnastique de quelqu'un de 20 ans, 23 ans. Et moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Quelqu'un comme le père de Haut, qui, par le fait même, étant presque aveugle, il n'y avait qu'une seule chose qu'il pouvait faire, c'était la marche. Eh bien, il s'était donné à lui-même le devoir de faire une marche, mais une vraie marche, tous les jours, une demi-heure. Parce qu'il était un tempérament, il aurait été facilement angoissé, comme tous les artistes. Tous les artistes sont facilement angoissés. Tous les gens sensibles, les spéculatifs sont facilement angoissés. Cultiver la spéculation, c'est un terrain glissant. C'est évident que c'est un terrain glissant. Alors, on doit le savoir et on doit faire tout de suite une compensation pour maintenir en nous le sens de la finalité. Bon, ceci étant dit, chapitre 9. Mais le fait d'être ou d'advenir de par nécessité, est-ce qu'il se rencontre à partir d'une hypothèse ou bien aussi absolument ? Pour le moment, en effet, les philosophes pensent que le fait d'être ou d'advenir de par nécessité existe dans le devenir, tout comme si quelqu'un tenait que le mur de la maison est advenu de par nécessité. Parce que les graves sont naturellement transportés vers le haut, vers le bas, et les légers à la surface. D'où viendrait que les pierres et les fondements sont en bas, tandis que la terre, du fait de sa légèreté, surtout quand il y a beaucoup d'herbe dans cette terre, ce que nous voyons tous les jours, donc tandis que la terre, du fait de sa légèreté, est en haut, et les bois tout à fait à la surface, car plus léger. Et on voit ça sur la cour, les pierres et la terre emportée, remplies d'herbe. Donc une légèreté particulière, parce que la salade, c'est ce qui est plus léger. Flotte. Et on doit la couper pour qu'elle flotte moins. Mais pourtant, même s'il est vrai qu'il ne serait pas advenu sans ses dispositions, il ne l'est pas pour autant sous la vertu de ses dispositions. Si ce n'est en tant qu'il est advenu en vue d'une matière, oui, en vertu d'une matière, mais en vue de recouvrir certaines choses et de les sauver. Semblablement encore, dans toutes les autres réalités en lesquelles existe la fin en vue de quoi, les choses n'adviennent pas sans les constituants qui ont la nature nécessaire. Elles n'adviennent pourtant pas sous leur vertu, mais plutôt les ont comme matière et en vue d'une certaine fin. Sans la vertu de quoi, par exemple, la scie est-elle telle que voici, de manière à être ceci, et en vue de cela. Or, cette fin, en vue de laquelle elle est telle que voici, il lui est impossible d'advenir si la scie n'est pas du fer. Il est donc nécessaire qu'elles soient de fer, si doivent exister une scie et son œuvre. Et la matière est en vue de la fin. Je saisis telle matière en vue de telle fin. Et la compréhension de la matière se fait en vue de la fin. Le nécessaire existe alors à partir d'une hypothèse, mais non comme fin. Car le nécessaire est dans la matière, tandis que la fin en vue de quoi ? Et dans la notion expressive. Oui, la notion excessive, to de ou eneka en to logos. J'aimerais mieux dire qu'on traduise le logos. Parce que la notion expressive, très difficile, je comprends que c'est très difficile à traduire. Hein. Le logos. C'est les Grecs qui ont inventé le logos. Pourquoi pas garder le logos ? Nous sommes dépendants des Grecs par rapport au Logos. Donc c'est le Logos. C'est pas la même chose, vous voyez, de dire « Tandis que la fin, en vue de quoi, est dans le Logos. » Ento logo. Or, le Logos, premier, c'est l'Eidos. Où est-ce que vous êtes en premier le Logos ? C'est dans l'Eidos. C'est pour ça que quand vous êtes fatigué, le Logos, c'est l'idée. Parce que le conditionnement détermine, alors que le conditionnement n'est que conditionnement. Du logos, je passe au concept. Du logos, je passe de l'aïdos. Je...